la question des écrans chez les jeunes. Cela fait bien longtemps que je me la pose. Et alors, Eureka! Car la semaine dernière, c'est le président lui-même, lors d'une conférence de presse, qui m'a tendu une perche pour y répondre, en proposant l'interdiction du téléphone aux moins de 11 ans et aux réseaux sociaux avant 15 ans. Alors bienvenue dans ma chronique. Je suis Maya, stagiaire à Radio Primitive. J'aimerais aujourd'hui nuancer cette affirmation paraissant si simple, mais qui pourrait rapidement révéler ses limites. Quelle est la raison donnée, de prime abord, à l'adoption de cette mesure? Si celle-ci est applicable, elle pourrait évidemment préserver les jeunes d'une addiction précoce. Les écrans ont, en effet, un sérieux impact sur le développement cognitif du cerveau jeune. Parmi ces conséquences, on trouve des stimulations excessives pour le cerveau. De la fatigue, des troubles de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et de mémorisation, des troubles du langage, à terme, des conséquences donc physiques et psychologiques. On mobilise souvent un autre argument, celui de la préservation des dangers et des dérives d'Internet pour l'enfant, notamment sociales, par exemple le détournement d'images, le cyberharcèlement, en bref, ce qui affecte davantage la santé mentale. Pourtant, comme je l'ai mentionné, si son application est possible. Et dans les circonstances actuelles, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas. Est-ce même réellement applicable, en vertu des textes de loi, de surveiller de telle manière la vie privée de ses citoyens? Si l'on y réfléchit, l'interdiction des écrans nécessite évidemment une surveillance étatique, ce qui va à l'encontre de la protection de la sphère privée et de la vie familiale. La surveillance dans la sphère privée doit rester connue de l'individu concerné et doit se faire uniquement si elle est justifiée d'un motif impérieux et spécifique, par exemple dans le cadre d'une assignation à résidence. Autrement dit, c'est une décision qui ne peut pas être appliquée si on s'en réfère à la loi. Prenons l'exemple de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La justification d'une telle surveillance peut concerner la protection de la santé, mais comment peut-on décider que la santé de l'individu est réellement mise en danger? S'il n'y a pas urgence médicale, s'il n'y a pas addiction. Ce n'est donc pas une interdiction qui puisse être généralisée. Maintenant, un autre problème se pose. Celui de savoir s'il n'y a pas une sélection injuste qui est faite vis-à-vis des sources d'information. Après tout, les réseaux sociaux sont un vecteur de l'actualité et un moyen de relayer d'autres médias, comme la télévision, la radio, les journaux. Mais ce sont aussi devenus des médias d'information eux-mêmes. De ce fait, son interdiction empêche un accès à l'information. Restreindre cet accès constitue une discrimination certaine en termes de sources d'information. Par ailleurs, les écrans en général permettent aussi la découverte de nouvelles connaissances et peuvent être aujourd'hui un complément culturel non négligeable. On peut penser à des podcasts ou à des documentaires, par exemple. Il y a aussi naturellement la question des ressources culturelles et sociales de chaque individu. Les milieux sociaux déterminent les centres d'intérêt d'un individu qui a tendance à s'intéresser au même sujet que ses pairs. Est-ce que cette interdiction permettrait réellement à tous les jeunes de s'ouvrir à d'autres activités? Une personne venant d'un milieu populaire a moins de chances d'accéder à une diversité dans les activités culturelles et sportives, par exemple aller visiter un musée à l'initiative de ses parents, qu'à des écrans qui sont beaucoup plus faciles d'accès aujourd'hui. Et ce qu'il s'agisse du téléphone ou de la télévision. On sait que cette interdiction ciblerait ce qui renvoie à la culture de l'instantané, à savoir TikTok, YouTube Shorts, etc., ce qui concerne en grande partie les milieux les plus populaires. Est-ce que cette mesure prend en compte ces inégalités sociales et cherche à y remédier? Non, certainement pas, et on le voit bien, elle est surtout discriminatoire. Et justement, de plus en plus de jeunes voient en les écrans un réconfort, absent de leur réalité inégalitaire. D'une part, cette addiction révèle un sérieux mal-être chez cette jeune génération. Et d'autre part, notre monde est numérisé sur tous les plans. Que ce soit le médical, des plateformes en ligne, la médecine en elle-même, le financier et l'économie avec les comptes en banque, le développement des crypto-monnaies. On trouve tout sur Internet. Est-ce si étonnant que la jeunesse vive elle aussi de nombreuses expériences quotidiennes via les outils numériques ? Peut-on la blâmer, la punir pour cela, alors que les adultes, qui ont grandi sans, en sont aussi totalement dépendants ? Ainsi, on constate que des facteurs sociaux, culturels et économiques expliquent l'utilisation néfaste et abusive des écrans. La question ne se limite donc pas à une interdiction ou à une quelconque répression. Elle devrait ouvrir un débat bien plus large pour s'attaquer au cœur du problème. Quelle structure pourrait être développée pour accompagner cette mesure si elle devait être prise ? Est-ce vraiment la jeunesse qui est la seule concernée par l'addiction aux écrans ? Non, puisqu'on constate que c'est un phénomène qui concerne plus des classes sociales spécifiques, généralement populaires, davantage qu'une catégorie d'âge, à savoir la jeunesse. Combien de temps encore allons-nous laisser ces questions de surface faire de l'ombre aux inégalités de fond ? Combien de temps allons-nous remettre systématiquement la faute sur les jeunes dont on accuse injustement d'être passifs ? Merci de m'avoir écouté.